sa parole. Donc je vais prier et ensuite on va voir ces choses ensemble. Prions ensemble si vous voulez bien. Nous te louons, Seigneur, que ta grâce s'est manifestée en Jésus-Christ. Et cette grâce est la source de salut pour tous les hommes. Et merci également, Seigneur, que cette grâce nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. Et donne-nous de comprendre ce que cela signifie aujourd'hui dans ce texte avec toutes ces consignes. Donne-nous d'être à ton écoute, Seigneur, avec le cœur ouvert, que tu nous façonnes à l'image de ton Fils. Nous t'en prions au nom précieux de Jésus. Amen.
Amen.
D'après un sondage mené en 2019 auprès de 2000 de nos compatriotes belges, 8 Belges sur 10 essayent apparemment de manger équilibré. Magnifique. Pour 44,4% des Belges, un mode de vie sain n'est pas pensable sans une alimentation saine. Yes. Plus de 8 Belges sur 10, donc 82,6%, s'efforcent dès lors de manger sainement. Mais, hélas, tout le monde ne parvient pas à vivre sainement. Loin de là, il y a parfois des contradictions, n'est-ce pas, dans ce genre de sondage. Parce que près de 9 Belges sur 10 trouvent que le fast-food, c'est bien. C'est-à-dire 76% de notre population. Voire même formidable, 10% de la population. Un Belge sur 10, 10%, on est fort en maths ce matin, mange même du fast-food au moins 2 fois par semaine. Oh, quelle honte, les amis, d'apprendre cela. Parfois, il y a toujours difficulté d'avoir cohérence entre ce que nous aimerions être et la réalité de notre vie hebdomadaire, n'est-ce pas? Notre texte de ce matin, Tite 2, les 10 premiers versets, vise également, j'espère que vous l'avez vu, notre bien-être. Mais bien-être dans quel sens? Rappelons-nous du contexte de cet épître de Tite. Paul écrit à des jeunes chrétiens, là où lui, Paul, a fondé des assemblées chrétiennes avec l'aide de son co-ouvrier Tite, et il a envie, il désire que ces jeunes chrétiens soient établis dans la foi et avertis des dangers qui circulaient du fast-food spirituel, des influenceurs qui parlaient facilement. Si nous nous rappelons du chapitre 1, on les appelait des discoureurs futiles. Mais leur nourriture rendait les autres plutôt malades. Car au lieu de faire grandir dans la foi et dans la vérité, selon le chapitre 1, verset 13, il détournait ceux qui écoutaient de la vérité. Et Tite devait les reprendre, chapitre 1, verset 13. Reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Qu'ils déclarent connaître Dieu, mais ils renient cette connaissance par leurs œuvres. Et dans un contexte culturel à Crète de l'époque où il y a des méchants, des menteurs, des paresseux, tout ça a été dit au chapitre 1, il faut des responsables honnêtes, dignes de confiance. Ça, nous l'avons vu la semaine dernière, n'est-ce pas? Et il faut que ces responsables enseignent ce qui est sain. Et donc, au chapitre 2, Paul donne à Tite une feuille de route, si vous voulez, pour ce genre d'enseignement sain. Il est soucieux de montrer que la bonne doctrine, la grâce que nous avons en Jésus-Christ, transforme le comportement de l'homme. Donc, l'objectif de Paul, c'est de faire en sorte que nous ne pouvons regarder un chrétien à Crète de l'époque et dire sans gêne qu'un tel ou un tel renie par ses œuvres le Dieu qu'il déclare connaître de par ses lèvres. C'est ce qu'il dit à la fin du chapitre 1. Un enseignement qui est saint est un enseignement qui prône un comportement saint, des œuvres qui témoignent de la réalité de leur foi. Il dit au chapitre 2, verset 1, ce qui convient à l'enseignement saint. Et qu'est-ce qui donc convient à l'enseignement saint? C'est ce qu'il va ensuite stipuler dans les versets 2 à 10. Et Paul n'hésite pas à donner une instruction concrète et même détaillée du genre de comportement qui est saint, qui prône des œuvres bonnes, qui cadre avec le message de la grâce que nous recevons en Jésus-Christ, source de salut pour chacun d'entre nous. Et cette grâce, il va y revenir de manière très forte la semaine prochaine, à partir du verset 11, lorsque nous allons voir cela la semaine prochaine. Parce que ce n'est pas le bon comportement qui sauve. C'est important de répéter cela. C'est Jésus, mort à la croix, ressuscité le troisième jour, qui sauve. Mais le Jésus qui sauve est également le Jésus qui nous apprend, ses disciples, à vivre pour lui. À vivre donc comment ? Paul donne un résumé de ce comment à la fin de son dernière exhortation que nous avons ici sur la feuille, au verset 10, aux esclaves chrétiens. On arrivera aux esclaves. Lorsqu'il dit à la fin, pour faire honneur en tout à l'enseignement de notre Dieu. Faire honneur en tout à l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Et c'est ça notre donc premier point, le résumé de ce que c'est un enseignement saint. C'est ça ce qui convient à un enseignement saint. Un comportement qui rend attrayant, on aurait pu traduire le mot pour honneur dans ce sens-là, rend attrayant l'enseignement de Dieu. Alors le souci de Paul, ce n'est pas qu'on soit parfait à tous égards. Non, le souci, c'est que nous soyons cohérents en tant que chrétiens. Par rapport à ceux qui nous observent, il y en a encore des gens qui nous observent aujourd'hui de l'extérieur. Il se peut que vous êtes ici à l'intérieur de ce bâtiment en train de nous observer dans un sens donc de l'extérieur. Parce que vous ne vous dites pas en votre propre cœur que je suis disciple de Jésus-Christ, mais vous vous intéressez à ce que les disciples de Jésus-Christ disent et comment est-ce qu'ils vivent. Que notre famille ou nos amis ou nos collègues au travail ne disent pas « Oh, c'est pas super attrayant ce que moi je vois par rapport à la foi chrétienne de cette personne, tu sais. » À deux autres reprises, ce souci revient dans ces versets. Fin du verset 5, vous voyez ça? Il dit « Pour qu'on ne calomnie pas la parole de Dieu, car vivre de manière malsaine, c'est ouvrir la porte à ce que d'autres calomnient la parole de Dieu. » Le mot pour calomnier, c'est le même mot pour blasphémer, de traiter Dieu avec du dédain, car nous sommes dégoûtés par ceux qui portent son nom. Fin du verset 8, pour que l'adversaire soit confus et n'ait rien de mal à dire de nous. Oui, l'adversaire, le diable, se réjouit de pouvoir dire de mal à notre sujet. Un camp chrétien, dont certains d'entre nous, même dans cette pièce, ont pu bénéficier de par le passé au Royaume-Uni, a dû fermer en tant que camp il y a 2 ans, en partie car il y a eu un comportement malsain de la part de l'un ou l'autre des monos de ce camp qui a été dévoilé par la suite. Et cela décrédibilisait l'œuvre de ce camp chrétien dans son ensemble. Nous voulons éviter que cela soit le cas pour cette Église. Et cette Église est composée par vous, chers amis. Tu rigoles? C'est là ou un tel que moi je connais, il y va? Alors non, merci. Moi, je n'ai pas envie d'être là où il y a de telles personnes. Paul veut que Tite enseigne à l'Église qu'ils honorent en tout l'enseignement de notre Dieu. Mais notre deuxième point, c'est donc comment parvenons-nous à ce comportement? Et la réponse, c'est par l'enseignement, chers amis. Tite doit enseigner ces choses, dire ce qui convient à l'enseignement saint. Oh, ce n'est pas forcément ici ce qui est dit formellement ici devant le dimanche matin, ça fait partie de cela. Mais dit à toute occasion, formelle, informelle, en petit groupe, en 1-1-1, comme on dit, grand groupe, car verset 6, Tite doit encourager, exhorter, conforter, tout comme l'Esprit Saint a ce rôle. C'est le même mot employé pour l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament, d'encourager. Et Tite n'est pas le seul à enseigner de cette façon. Si les femmes plus âgées, vous voyez, fin du verset 3, doivent aussi enseigner le bien. Les femmes enseignent donc dans l'Église, voyez-vous. Ce n'est pas parce que les femmes enseignent dans ce contexte du Nouveau Testament qu'elles enseignent dans tout contexte. Nous venons d'en parler dans notre petit-déj d'accueil. Non, le respect des rôles différents au sein de l'Assemblée est évident dans d'autres textes du Nouveau Testament. Mais ce n'est pas non plus que enseigner en tant que tel est réservé uniquement aux hommes. Non, hommes et femmes sont engagés à ce ministère d'exhortation, de formation, de mise en pratique de la parole de Dieu. Et ce n'est pas limité, cette exhortation, à notre parole non plus. C'est également lié à l'exemple que nous donnons les uns aux autres. Car les jeunes femmes dans ce texte sont exhortées également grâce à l'exemple de ces femmes plus âgées. Et Tite, verset 7, lui, en tant que jeune homme, donne un modèle, lui, au jeune homme de son assemblée. En te montrant toi-même, dit Paul, un modèle de belles œuvres avec un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable. Nous apprenons donc, et par l'exhortation verbale, et par l'exemple, le modèle. Cela fait de l'Église, de notre Église, notre rassemblement, toutes les différentes relations engendrées lors d'une semaine dans laquelle il y a des petits groupes, il y a des rencontres, il y a des appels les uns aux autres, il y a de l'hospitalité offerte et reçue, ben cela crée, si vous voulez, un grand terrain d'entraînement. Et lorsque nous sommes en train de s'entraîner pour le sport, pour le foot par exemple, on apprend par l'exhortation verbale. Voici comment vous devez faire, je vous montre le plan de ce que je veux. Comme le roi Philippe, il montrait à Kevin De Bruyne ce qu'il devait faire dans la pub qu'il y avait pour les Belges. Peut-être vous avez vu ça à l'écran. Voilà Kevin, tu fais comme ça, ça va? Oui, super. Roi Philippe, je vais faire comme vous voulez. Mais ensuite, nous apprenons également de par l'exemple des autres. J'ai vu qu'on n'a pas vu le roi Philippe sur le terrain parce que probablement il n'arrive pas à jouer super bien pour donner l'exemple. Mais là, hein, on voit d'autres joueurs lors de l'entraînement, c'est comme ceci qu'on fait. Ah ok, je vois ce que ça signifie. C'est en regardant les autres jouer sur le terrain que nous comprenons aussi ce que l'entraîneur voulait dire. Donc, nous y parvenons à cet enseignement saint, pas l'enseignement et le modèle qu'on nous donne. Et cela nous mène donc au point 3. Que vous avez dans votre livret. Dans la pratique, alors, quelle est cette manière de vivre qui est saine, qui fait honneur à notre Dieu. Et c'est là où on va prendre le restant de notre temps ensemble, en étant conscient qu'on ne termine pas aujourd'hui à midi, parce qu'on a commencé plus tard. Okay? Je vois déjà 11h48, je dis, ouh, on est bientôt à la fin. Non, on a encore beaucoup de temps pour consacrer à ces 5 points. Il y a suffisamment ici pour cogiter ensemble ce que le Seigneur nous dit. Paul s'adresse à différents groupes au sein de l'Église à Crète. Ce qu'il dit, ce n'est pas exhaustif. Cela ne couvre pas toute personne en toute situation. Mais déjà, il y a donc de quoi pour nous tous à se remettre en question. Donc d'abord, on commence avec les hommes âgés. Soyez respectables. Si, comme certains le pensent, Paul vise ceux ici probablement au-dessus de 50 ans, peut-être même au-dessus de 40 ans, comme étant vieux, alors non seulement ce matin je m'adresse à certains d'entre vous ici présents, mais hélas, je m'adresse également à moi-même. Et que dit-il aux hommes âgés? Verset 2, que les vieillards soient sobres, dignes, pondérés, saints dans la foi, l'amour et la persévérance. Sobre, d'abord, parfois employé par rapport à la boisson, bien entendu. Mais ici, je pense dans un sens plus large. Libre de tout excès de passion, d'imprudence, des tendances justement que nous voyons plus chez les jeunes. Il faut aussi être digne. D'où vient l'impératif que j'ai choisi pour cet âge, la feuille que vous avez. Soyez respectable. C'est la première qualité mentionnée aussi en 1 Timothée lorsque Paul donne les qualités nécessaires pour être diacre. Qu'il soit digne, respectable. Se comporter alors de façon clinquante ou qui cloche justement quand nous sommes censés d'avoir mûri quand même dans la vie. Bah, depuis lors, ce n'est pas beau à voir chez un homme âgé. Exemple, un homme âgé de notre assemblée qui porte trop d'attention à une jeune femme célibataire, bien que potentiellement innocent en tant que tel, ça cloche. Voir lors d'une agape un homme expérimenté élever sa voix trop vite quand il se sent affronté parce qu'un autre a pris ce qu'il avait voulu manger et il n'y en a plus, ce n'est pas digne d'un homme de cet âge-là. Et il faut être pondéré, faire preuve de contrôle de soi, on reviendra là-dessus pour les autres. Ce que les faux enseignants n'ont pas appris, ceux qui cherchaient indignement le gain sordide, qui croyait, si vous voulez, à la propre publicité, au lieu d'écouter d'autres plus sages, plus expérimentés. Ils étaient, eux, insoumis, manquaient ce contrôle de soi qu'il fallait. J'étais frappé lorsque j'ai lu la biographie d'un théologien évangélique de notre époque, qui s'appelle Don Carson, mais la biographie de son père. Lui, ministre et ensuite simple fonctionnaire au Canada, mais chrétien convaincu de service des autres. Et le fils de cet homme, Tom Carson, a retrouvé le journal, plusieurs journaux, ça se dit, journaux, de cet homme. Et il a donc écrit ce que son père lui a dit, dans son journal. Et dans les 2 dernières années de sa vie, lorsqu'il avait la septantaine, voici ce que dit Don Carson. On a retrouvé, éparpillé, ça et là, dans les journaux intimes des 2 dernières années de sa vie, des phrases comme celle-ci. Protège-moi des péchés du vieil homme. Et il en décrit quelques-uns. Une tendance à graviter autour de la télé, la tension de regarder en arrière au lieu d'aller de l'avant, une tendance à se laisser aller à l'apitoiement de soi. Regardez les jeunes hommes avec envie. Et il a écrit à lui-même, exercez en tant que Seigneur un ministère de la prière. Dieu vous a donné le temps pour le faire. Oui, c'est parfois possible de regarder toujours en arrière en tant que vieillard, avec un esprit un peu amer, parce qu'on voit des jeunes qui commencent à prendre plus de place dans la société, dans l'église, même dans la famille, de se sentir un peu dépassé par toute sa jeunesse. Parfois, on peut aussi devenir trop maniaque pour des petits détails, trop anxieux de pouvoir maîtriser des petites choses qu'on nous demande de faire. Mais au lieu d'être grincheux, au lieu de se focaliser sur nous, sur notre retraite et nos ambitions pour notre retraite, nous devons en tant que chrétiens continuer à aller de l'avant parce qu'il continue pour les hommes âgés, saints dans la foi, l'amour et la persévérance. Mais souvent dans le Nouveau Testament, la foi envers Dieu, l'amour envers les autres sont accompagnés par l'espérance. Mais ici, Paul parle de persévérance comme un encouragement aux vieillards de réaliser leur espérance, donc de persévérer. Et donc, puis-je vous demander, puis-je me demander, en tant qu'homme plus âgé, est-ce que nous exerçons un ministère digne de notre âge? Le Seigneur nous appelle, chers amis, à cela. Alors, deuxième catégorie, femmes âgées. Ici, je l'ai résumé en disant, soyez encourageantes. Verset 3, que les femmes âgées de même aient un comportement qui convienne à des personnes consacrées, qu'elles ne soient ni médisantes, ni esclaves des excès de vin. Qu'elles ne soient pas médisantes. C'est le même mot qu'on utilise pour le diable, diabolique, ici. Clairement, à l'époque, ce danger d'avoir un peu trop de temps disponible était de l'avant. Donner donc pour conséquence que certaines personnes papotaient un peu trop sur les autres. On se souvient de peut-être 1 Timothée, chapitre 5, verset 13. De plus, étant désœuvrées, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas. Mais là, conversation chrétienne en tant que femme âgée, souvent auprès de d'autres femmes âgées, doit construire au lieu de détruire. Et dans un contexte où l'alcool a été utilisé pour des fins médicales, le danger d'être accroché au vin y était également, il nous semble. Danger qui est toujours là, de trouver refuge, si vous voulez, dans un verre. Lorsque l'attention des hommes, de son mari, est ailleurs, ou qui n'est plus là, et la solitude montre peut-être de plus en plus sa face, c'est quelque chose à laquelle il faut veiller. Femmes âgées, nous dit l'apôtre Paul. Il faut plutôt consacrer son temps où ? À enseigner le bien. À apprendre aux jeunes femmes comment vivre. Cela donc signifie un désir de ne pas avoir mon regard retourné sur moi-même. Le danger pour parfois des femmes âgées sur mes bobos, mon opération à venir, mes difficultés. Mais de chercher activement à encourager celles qui sont plus jeunes. Ceci n'est pas un enseignement qu'on arrive à faire passer de la chair, ici, le dimanche matin, non. C'est une sagesse transmise, une écoute, une amitié, un amour qui se construit grâce à l'exemple que nous donnons aux autres. Cette église, vous savez, a plus de 50% de femmes. Ces femmes ont besoin d'encouragement. Plus que ce qu'on peut donner ici, devant, à nos femmes plus âgées. Prions pour cela. Soyez encourageante auprès des jeunes femmes. Je pense à une femme dans la septantaine qui sert au sein d'une église à Paris. Elle est retraitée, elle vient d'Irlande du Nord. Mais au lieu de rentrer en Irlande du Nord pour sa retraite et rejoindre ce qu'elle connaît là-bas, elle continue par amour pour ses frères et sœurs de jouer un rôle clé au sein de son église locale, auprès d'autres femmes pour servir, pour épauler, pour prier, pour donner des conseils. C'est beau à voir cela. Nous devons viser, femmes âgées, ce genre de ministère au sein de notre église. Troisième catégorie, jeunes femmes. Alors ici, on a cherché le mot pour résumer. Je ne suis pas super satisfait avec « soyez active ». Mais cela pousse les jeunes femmes à ne pas être oisives, de ne pas laisser de côté les choses importantes dans la vie. Prenons note de nouveau, ce n'est pas Tite qui enseigne ces jeunes femmes, ce sont des femmes expérimentées qui s'en occupent. Mais avant de cogiter de ce que Paul dit ici dans les détails, je pense que c'est juste de prendre en compte deux choses. Première chose, le présupposé, c'est que ces jeunes femmes sont mariées. Dans la culture, c'était quasi toujours le cas. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Deuxièmement, le rôle principal pour une femme mariée à l'époque, bien que pas exclusivement le cas, c'était de mener le foyer. Mais cela ne signifie pas, en tant que rôle de mener le foyer à l'époque, qu'une telle femme ne travaillait pas. Il suffit de lire Proverbe 31 pour découvrir à quel point cette femme de valeur est engagée dans des activités commerciales, tout en prenant en compte des responsabilités familiales. À l'époque même de Paul, il suffit de penser à Prisca ou Priscilla, l'épouse d'Aquilas, engagée avec son mari dans le travail de fabricateuse de tentes, dans le même métier de Paul. Alors on pense à elle et cela dégage la pensée que la Bible soutient la thèse que la place de la femme est uniquement dans la maison. Ce n'est pas le cas. Et pourtant, la maison, la famille, fait aussi partie de ce rôle pour une jeune femme, même encore aujourd'hui. Et c'est là où l'accent tombe dans cette exhortation. Que dit-il? Afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer mari et enfant, à être pondérée, chaste, occupée aux travaux domestiques, bonne, soumise à leur mari, pour qu'on ne calomnie pas la parole de Dieu. Une jeune femme, donc, doit à la fois aimer son mari, début de cette exhortation, à la fois se soumettre à son mari. Et vous savez quoi? Ce n'est pas une contradiction de dire cela. L'amour pour un homme se manifeste en partie par un désir de reconnaître la charge qu'il a de mener la famille et donc d'encourager son mari dans l'exercice de cette charge. Une telle tâche, que nous soyons clairs là-dessus, le mari doit exercer avec soin, avec douceur, avec un amour sacrificiel. Il doit, Éphésiens 5, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire se donner pour elle. Donc il protège, il pourvoit le cadre pour la mise en pratique des dons des autres, y compris de sa femme. Souvent des dons plus relationnels, plus empathiques que les siens. Jamais peut-il briser la conscience de sa femme, jamais peut-il menacer sa femme, jamais a-t-il le droit d'exiger qu'elle désobéisse à Dieu, qu'elle pêche. Dans de telles circonstances, il ne faut pas que la femme s'assume à son mari. Mais cela laisse beaucoup d'autres circonstances où, oui, il faut apprendre à aimer son mari, malgré ses faiblesses, et à se soumettre à son leadership, sans se plaindre, sans miner ses décisions à tout moment. Le mariage, vous savez, ce n'est pas désigné par Dieu d'être un champ de bataille pour toute décision à prendre dans la famille. Là où il y a, si vous voulez, un accord, ou si vous, vous décidez 50% des choses, alors ça me donne le droit de décider, moi, l'autre 50% des choses. Nombreuses femmes font souffrir leur mari car elles ne cèdent pas à son leadership bienveillant. Il faut dire que nous connaissons des couples où le mari doit parfois justifier, à titre d'exemple, toute petite dépense à sa femme, petite ou grande. Des couples où le mari doit toujours se justifier pour toute petite décision prise. Nombreux sont des hommes, oui, trop têtus de reconnaître que l'avis de leur femme est juste et qu'ils auraient dû l'écouter. Mais pas toujours, pas toujours. D'où vient l'exhortation à des jeunes femmes à aimer leur mari. Non seulement aimer le mari, mais aimer également les enfants. Combien c'est important de pouvoir, de pourvoir ce cadre où des cœurs des enfants dans la famille sont forts, sont en sécurité, sont joyeux, sont solides, car ils ont pu bénéficier de l'affection et la protection de la maman. Si oui, les maris dans une famille chrétienne doivent être engagés dans la tâche d'élever les enfants dans le Seigneur, c'est souvent l'amour maternel qui pourvoit ce cadre pour la croissance spirituelle dans le Seigneur que les deux parents ils souhaitent voir. Les jeunes femmes doivent aussi être pondérées, comme des hommes âgés, purs, fidèles, oui, donc à leur mari, mais peut-être purs aussi dans un sens plus large. Ils ne sont pas mêlés avec des péchés des autres. Et oui, ensuite occupés aux travaux domestiques. Rappelons-nous que des mauvais enseignants du chapitre 1 bouleversaient des maisons tout entières. Est-ce là-dedans qu'il y avait un encouragement aux femmes de se concentrer tellement sur le côté spirituel que des choses plus terre-à-terre ont été négligées, considérées comme non spirituelles? C'est peut-être pour cette raison que j'ai choisi donc le sous-titre « Soyez active, pas oisive ». Voyez-vous donc qu'il y a plein de choses à apprendre aux jeunes femmes et apprendre si je suis jeune femme. Je ne le suis pas, bien entendu, mais il se peut que vous l'êtes. Et le Seigneur, dans l'Église, vous pourvoit avec des coachs. Pas le pasteur, pas des anciens, mais une armée de femmes. Il y en a au sein de notre Église. Prions donc pour que vous grandissiez dans votre apprentissage en tant que jeune femme. Alors, jeunes hommes, deux catégories encore. Ça va? Tout le monde tient lourd? Tiens, jusque-là? Non? Besoin juste de faire ça à celui à côté de vous? Ouais, super, réveillez-vous les jeunes, parce qu'on parle de vous là maintenant. Jeunes gens, dit notre texte au verset 6, mais dans le contexte, il est question des jeunes hommes. Et jeunes, probablement, c'est à partir de 14 ans suivants. Donc les ados sont également concernés. Et ici, Tite, lui, relativement jeune aussi, joue un rôle plus direct, vous voyez, encourage de même les jeunes hommes à être pondérés. C'est la seule chose qu'il dit explicitement aux jeunes hommes. C'était nécessaire, ça, pour les vieillards, pour des jeunes femmes également, mais c'est la seule qualité explicitement mentionnée aux jeunes hommes. Si à Crète, il y avait des méchantes bêtes contrôlées par le ventre, par le mauvais désir, oui, la pondération, la juste mesure était surtout nécessaire à l'époque pour des jeunes. Et ça reste le cas aujourd'hui, nous devons l'avouer, parce que le dynamisme, l'enthousiasme, l'énergie de la jeunesse peuvent déborder, peuvent donner suite à une façon irréfléchie de se comporter. Non seulement ça, mais ils peuvent s'emballer trop vite dans une passion, un hobby. C'est le propre des jeunes de ne pas regarder un seul épisode de Netflix, mais de dévorer toute une série dans un seul jour. Pas quelques minutes sur Instagram ou sur le PS4, mais toute une soirée. De même pour une nouvelle idée. Souvent, une nouvelle idée, ça doit être acté tout de suite. Une conversation entre amis doit forcément avoir lieu pendant des heures. Une dispute est rarement nuancée. C'est souvent juste noir ou blanc. Il faut donc du recul, il faut de la sagesse, il faut de la réflexion, de la pondération, dit l'apôtre Paul. Et oui, même dans l'Église de Jésus-Christ. Car sinon, nous sommes tout feu, tout flamme pour une nouvelle idée, et ensuite, quelques semaines, quelques jours, on lâche cet engagement parce qu'on a trouvé une autre passion qui le remplace. Trop nombreux, même dans notre assemblée, parmi nos jeunes, nous avons des personnes qui semblent ne pas être en mesure de recevoir un mot constructif pour son bien offert dans l'amour sans le prendre trop dès le début sur le défensif. Mais c'est un signe d'immaturité de réagir de cette manière-là. Prions donc que nos jeunes mûrissent dans la réflexion. Soyons reconnaissants pour le désir de servir et qu'ils soient entourés de bons exemples, de bons modèles. En te montrant, dit Paul à Tite, toi-même un modèle de belles œuvres, avec un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable. Vous savez, nos besoins, nos jeunes, n'ont pas besoin de plus de cool dans leur vie. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un plus âgé qui essaye de s'approcher d'eux en étant cool. Non, il n'y a rien, on me dit, de moins cool que quelqu'un plus âgé qui essaye d'impressionner les autres par sa soi-disant jeunesse. Non, tu n'es plus jeune. Donc, essaye pas d'être jeune par tes blagues ou par tes habits ou quoi que ce soit. Ce dont ils ont besoin, ce sont des bons modèles. Sérieux à propos des choses sérieuses. Je viens d'apprendre le décès d'un mono pour un autre camp au Royaume-Uni, un mono qui avait marqué beaucoup de jeunes de par son exemple et son travail. Il y avait 500 personnes à ses funérailles. Et juste quelques semaines plus tôt, nous avons également appris un autre mono a dû démissionner de son poste suite à des relations inappropriées avec d'autres femmes. Et là, le modèle donné est désastreux. Prions donc que nous soyons de bons modèles auprès de nos jeunes. Dernière catégorie, chers amis, des esclaves. Soyons dignes de confiance. Cette dernière catégorie, ce n'est pas selon l'âge, mais c'est selon la situation sociale. Il s'adresse aux esclaves. Et évidemment, aujourd'hui, merci Seigneur, dans notre Église, jusqu'à ce que je sache en tout cas, il n'y a pas d'esclaves. Mais pourquoi il s'adresse aux esclaves ici? Probablement parce qu'il y avait pas mal de conversions d'esclaves dans cette classe sociale de l'époque. Et il faut reconnaître que l'esclavage dont nous parlons ici n'est pas le même de celui connu, par exemple, aux États-Unis au 19e ou 20e siècle. Des esclaves ici à Crète jouissaient souvent des responsabilités conséquentes au sein de la famille. C'était des membres fort appréciés du foyer. Parfois, d'ailleurs, ça pourvoyait un cadre sécurisé contre la pauvreté. Mais oui, quand même, il faut reconnaître qu'ils restaient tout de même esclaves. Et le souci ici de Paul, ce n'est pas l'institution de l'esclavage en tant que telle, mais le témoignage des chrétiens qui sont esclaves. Si vous vous intéressez à comment le Nouveau Testament influence ensuite la pensée de l'époque par rapport à l'esclavage, il faut lire la lettre de Philémon. Mais ici, Paul se concentre sur le comportement de ces esclaves et le témoignage qu'il donne. Et que dit-il, verset 9, que les esclaves soient soumis en tout à leur maître, qu'ils s'efforcent de leur être agréable, qu'ils ne les contredisent pas, ne détournent rien, mais qu'ils se montrent toujours entièrement dignes de confiance pour faire honneur en tout à l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Le parallèle le plus proche de la relation maître-esclave aujourd'hui, c'est celui d'employeur-employé. Ce n'est pas la même chose, nous en sommes conscients, merci Seigneur. Un employé ne doit pas être soumis en tout à son chef, mais l'attitude de soumission par rapport à ceux qui portent une autorité légitime doit se manifester chez le croyant. Et pas juste au travail, hein. À la commune, dans le train, sur l'autoroute, à l'église, il y a toujours moyen, lorsque nous sommes face à l'autorité, encore aujourd'hui, de faire comprendre à ceux qui portent l'autorité, à notre chef si c'est au travail, que si je fais ce que toi tu demandes, ce n'est que parce que je n'ai pas d'autre choix, tu sais. Alors, cette attitude fait preuve d'insoumission, chers amis, de rébellion. Au lieu de s'efforcer, comme Tite dit ici, Paul dit à Tite, à être agréable à nos responsables, à ne pas les contredire pour démontrer à quel point nous estimons qu'ils sont stupides. Vous savez ce que veut quelqu'un qui exerce l'autorité? C'est que ceux qui sont en dessous de son autorité l'encouragent dans l'exercice de cette autorité, au lieu d'avoir son autorité minée à tout moment. Que les chrétiens se manifestent dignes de confiance. Cela joue un rôle important, contribue à ce que d'autres ne méprisent pas l'évangile de Jésus-Christ que nous proclamons. Je regrette toujours le témoignage d'un jeune chrétien qui était dans le même lieu de travail que moi lorsque je bossais dans un bureau à Londres. Ce jeune venait de commencer dans la société et il voulait trop parler. Les chefs lui ont dit de travailler, mais il prenait trop de temps à discuter, même à discuter de l'évangile, qui n'était pas une mauvaise chose en soi. Mais il devait apprendre quand est-ce qu'il fallait travailler, quand est-ce qu'il fallait discuter. Et son travail n'a pas été à la hauteur. Et donc, ils ne l'ont pas retenu. C'est normal. Cette personne voulait que d'autres de la société acceptent son invitation de venir à l'église. Non, on n'a pas envie d'être dans ton église si ton église produit de telles personnes qui ne respectent pas l'autorité de cette société. Faisons-nous donc notre mieux, chers amis, de respecter l'autorité au-dessus de nous, pour être agréable à celui qui exerce cette autorité. Ou faisons-nous plutôt obstacle pour cette personne ou ces personnes, rendant donc son travail plus difficile. Si oui, une telle personne a une attitude rebelle, et ce n'est pas beau à voir, c'est un porte-à-faux avec l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Mais ça va être donc le temps, nous avons eu souvent des jeunes stagiaires qui viennent dans notre église d'Angleterre. De par le passé, il n'y en a pas cette année-ci dans l'église. Et l'un des principes que nous avions, c'était sur l'année de leur donner au moins une chose qu'ils n'avaient pas envie de faire. De leur dire, voulez-vous faire ceci? Et ils ont dit non. Et on dirait, mais vous savez quoi? Vous allez quand même le faire. Mais j'aime pas ça. Mais vous n'êtes pas là pour faire ce que vous voulez faire à tous égards. Et donc, le défi parfois de faire ce que je ne veux pas faire démontre mon attitude d'humilité et de soumission par rapport à celui qui porte l'autorité. Oui, à long terme, c'est pas sage de maintenir quelqu'un dans une tâche qu'il ne veut pas faire, parce qu'il ne fera pas ça bien. Mais de l'autre côté, nous devons tous apprendre parfois à simplement faire ce qu'on nous dit. Alors j'aimerais vous demander, vous tous, c'était quand la dernière fois qu'au travail, que dans la famille, même à l'église, que vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas voulu faire? Si ça fait un long, long moment, peut-être il est temps de nouveau de se remettre en question sur votre attitude par rapport à ceux qui portent l'autorité. Esclave, dit Paul, même à des esclaves, soit digne de confiance. C'est ça, un chrétien qui connaît Jésus-Christ. Quel est le résumé qu'il donne, fin du verset 10, que nous avons déjà évoqué, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur? Mais n'est-ce pas encourageant, chers amis, qu'il termine juste avec ce mot-là, la doctrine de Dieu, notre Sauveur? Parce qu'il se peut qu'en tant qu'homme âgé, en tant que femme âgée, en tant que jeune femme, en tant que jeune homme, en tant qu'esclave ou quelqu'un sous l'autorité, que nous nous disons, ah, il y a du progrès à faire donc dans ma vie. Amen. Oui, c'est pour ça que Paul écrit à Tite, il y a du progrès à faire. Et pour que je me décourage, que je dis je lâche, plus besoin pour moi de continuer dans cette foi chrétienne, c'est trop difficile. Non, nous avons affaire à un Dieu qui s'est manifesté envers nous en Jésus-Christ, qui s'est donné pour que nous soyons sauvés, pour que nous fassions partie de sa famille, et donc pour que nous nous encouragions les uns les autres à grandir dans notre foi. Si vous nous observez de loin, chers amis, vous vous dites, bah, ce n'est pas ce comportement-là que j'ai ou que je désire, bah, je vous demande de revenir l'année prochaine, la semaine prochaine, où nous allons de nouveau parler de cette grâce de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Ce n'est que ça qui a la puissance de nous transformer. Nous allons terminer avec le chant que vous voyez, mais pas terminer tout court, parce qu'après nous aurons la Sainte Cène. Mais nous allons terminer cette partie avec ce chant, « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts. » Donc je vous invite, chers amis, à lever et à prier avec moi en chantant ce chant, « Ô Jésus, tu nous appelles. »